journal. Demandez-le le journal du jour, le journal. Le voici, c'est celui d'aujourd'hui même, le journal, allez-y, le journal.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Radio Canu, 102.2.
Canu Info.
Gloire au journal.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir.
Et bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info.
Du mercredi.
Et ouais.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Bonsoir.
Bonsoir.
Il est 19h passé de 6 minutes et c'est l'heure du Canu Info, du Canu Info, du Flash Info, on va dire, parce que ça va être assez flash. Waouh. Donc ce soir, on va parler on va commencer par des brèves, ensuite on va parler un peu des frontières et on finira ce Canu Info par la chronique de Laurent Delabouze. Et
c'est vrai, j'ai pas mon micro. Je disais partez pas pisser parce que vous pouvez vous retenir 5 minutes, après les infos seront terminées.
Ah, on voit que t'es une bonne prostate. On va commencer par.
Par une brève.
Par une brève. Alors n'investissez pas dans des entreprises qui ont touche au business de la piscine, parce que la FPP, la Fédération Professionnelle de la Piscine, pleure à chaudes larmes. Le chiffre d'affaires du secteur est en net recul, 11,5% en recul sur les 9 premiers mois de 2023 par rapport à la même période de l'année dernière. Le nombre de piscines construites a coulé de 15% sur 9 mois par rapport à la même période. Ouais, j'essaye de piquer un peu tes jeux de mots comme ça sur... pour le président de la FPP, en plus de, je cite, la situation de sécheresse inédite qui a eu un fort impact médiatique et négatif sur notre profession, notre Bichounet, tout triste, ajoute que son secteur a été stigmatisé dans le contexte de restrictions d'eau cet été. Bon, alors rassurons-nous, hein, il y avait quand même eu une forte augmentation de construction après le Covid et il précise quand même que le secteur fait d'énormes efforts pour éviter de voir la tasse. Bravo. Et qu'au final, quand même, cette consommation équivaut quand même à pas grand chose. Il estime ça à 20 millions de mètres cubes d'eau, ce qui représente 0,06%. En fait, tout ça, c'est quand même pas grand chose. On y voit pas trop pourquoi on se fait chier.
Le 4 novembre, la Turquie aurait encore utilisé des armes chimiques dans une zone contrôlée par le PKK, parti des travailleurs du Kurdistan. Cela au Bachour, situé au sud du Kurdistan, au nord de l'Irak.
Et voilà, bah, ce Canu Info est fini. Merci de nous avoir écoutés.
Non. Non, on va passer au Faut que ça se sache.
C'est ça.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre tous les moments qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a décidé de limiter par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Info contre la machine.
Donc, suite à un accord passé entre l'Union européenne et le Caire, accord passé en 2022, la France va livrer 3 magnifiques navires aux gardes-côtes égyptiens. L'accord prévoyait, entre autres, que les forces égyptiennes interceptent les canaux en direction de l'Europe et qu'elles bloquent également les exilés sur le sol égyptien, en échange de quoi l'UE verse une aide de matériel de 110 millions d'euros. Au sein de cette aide financée, la France est aux avant-postes. Ces trois navires sont fournis par 3 entreprises françaises, Civipol, son sous-traitant Défense Conseil International, qu'on appellera DCI, et le chantier naval Quatch. Pour l'entreprise DCI, c'est un peu double bingo, parce qu'en plus de fournir le matériel, elle assurera la formation des gardes-côtes égyptiens. Et en plus de ces 3 navires, des caméras thermiques devraient rapidement être fournies au Caire, le tout pour un total de 23 millions d'euros. C'est-à-dire que c'était quand même aussi un marché assez lucratif qui se retourne un peu dans les poches de l'État. Si le traitement des exilés en Égypte est peut-être sensiblement moins pire qu'en Libye, en tout cas pour l'instant, le pays reste tout de même dirigé par Al-Sisi depuis le 2013, qui mène une répression féroce contre tout opposant politique. On dénombre par exemple dans le pays environ 60 000 détenus d'opinion. Pour l'Union européenne, pourquoi l'Union européenne investit aux côtés des Égyptiens ? Car de plus en plus d'Égyptiens fuient leur pays. Pour l'ONG Refugees Platform in Egypt, dans des propos recueillis par Orient 21, je les cite, ce phénomène va être encore accentué par le soutien de l'UE au gouvernement égyptien. L'immigration est instrumentalisée par les dictatures de la région comme un levier pour obtenir un appui politique et financier de l'Europe. En juillet dernier, par exemple, je finis par fin de citation, un accord similaire était signé avec la Tunisie et pour l'Union européenne quand il s'agit de gestion de frontières, peu importe le sort réservé aux migrants. Cet accord a été signé au moment où des milliers de migrants subsahariens étaient raflés à Sfax, ville située au centre-est de la Tunisie et abandonnée dans le désert à la frontière avec la Libye et l'Algérie. Plus d'une vingtaine sont morts de soif, le tout accompagné d'une vague de racisme inédite dans le pays.
Il faut que ça se sache.
Et on va faire un tour du côté de la Grèce. C'est le 13 novembre, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Un canot avec 23 personnes d'origine afghane à son bord se dirige près de Lesbos. Le navire grec s'approche vers elle et eux, avec des hommes à cagouler à son bord également. Sur la vidéo qu'a réussi à prendre un exilé, on voit le bateau des gardes-côtes manœuvrer dangereusement à ses côtés, avec l'un des cagoulés brandir un grand bâton métallique muni d'un crochet. Vous voyez, si vous avez déjà vu des bateaux, c'est cette espèce de grand bâton, qui sert un peu à manœuvrer dans les ports, soit pour s'éloigner, soit pour se rapprocher. Mais là, il servait plus comme arme. Des personnes ont été blessées, par exemple, sur le canot, et il a également servi à essayer de crever ce bateau pneumatique. Le groupe est finalement récupéré par les gardes-côtes, fouillé et dépouillé de leurs objets de valeur et de téléphone, pour ne pas qu'on retrouve de traces de la vidéo, mais la personne qui a filmé la scène a réussi à cacher son téléphone dans les vêtements de son enfant. Puis le groupe est remis à l'eau sous la menace d'une arme, et le canot est également sans moteur. Le moteur a été jeté par les gardes-côtes grecs. Ils dériveront ensuite pendant un long moment et réussiront à téléphoner au secours turc grâce au téléphone qui avait été caché. C'est loin d'être un cas isolé. Régulièrement, des cas de violence et de refoulement illégaux sont documentés vis-à-vis des gardes-côtes grecs. Ces violences et refoulements sont tellement la norme que, par exemple, des exilés qui sont passés par la Grèce que ça se voit, enfin qu'on a une trace de ça, qui déposent une demande d'asile dans un autre pays de l'Union européenne, ils doivent logiquement être dublinés, c'est-à-dire être ramenés dans le premier pays sur lequel ils sont arrivés. Et ben, par exemple pour la Grèce, ça ne marche pas parce que l'Europe juge que le pays maltraite les migrants. Oui, c'est la même Europe qui met en place une Europe forteresse avec aux avant-postes la Grèce, son bras armé.
Du coup, la Grèce ne serait pas considérée comme un pays sûr.
Donc la Grèce, et on est content que les gardes-côtes fassent le sale boulot qu'aucun pays ne voudrait faire, mais au niveau du droit européen, c'est quand même un peu trop, donc on peut pas vraiment non plus leur refiler les migrants qui viennent déposer des demandes d'asile ici. Ce même jour, par exemple, une embarcation a chaviré en mer Égée, donc cette fois-ci au large de la ville turque d'Izmir. Il et elle tentaient de rejoindre l'île de Chios et tous ses occupants et occupantes sont morts. On ne sait pas si le bateau a subi un refoulement des gardes de Grootcrack. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit d'une des zones où patrouillent Frontex et la Grèce de manière très régulière. Et en très bref, l'Océan Viking est bloqué en Italie. Il a été bloqué mercredi pour 20 jours à quai par les autorités de Rome. Le navire humanitaire a secouru deux embarcations en détresse sans avoir reçu le feu vert des autorités libyennes. Vraiment, c'est des salauds, ces gens de l'Océan Viking. Mais c'est ce que prévoit la nouvelle loi italienne. Et l'ONG donc dénonce un décret absurde et fait valoir qu'il est impossible de communiquer avec les forces maritimes de Tripoli.
Il faut que ça se sache.
Bah oui, c'est à moi.
Attention, vous êtes prêts?
Et maintenant, en direct et en mégahertz, voici la chronique de Laurent de la Meuse.
Bonsoir. Alors maintenant, ça suffit. Hein. Il va falloir commencer à arrêter de critiquer le gouvernement Macron à tout va. Comme le symbolise à merveille son ministre, la justice est droite et doit aussi s'appliquer dans les jugements un peu faciles et rapides que vous avez souvent à l'encontre de notre gouvernement. Ah ça, il y a du monde pour dénigrer l'exécutif à la moindre occasion. Et surtout ici, j'ai remarqué, il n'y a pas une semaine où on vous entend pas cracher sur le pouvoir, le mépriser, le dénigrer continuellement. Ça devient insupportable. Par contre, quand il faut reconnaître ce qu'il met en place pour améliorer le pays, là, il n'y a plus personne. Alors, bande d'ingrats, si le gouvernement n'est pas parfait, vous pourriez au moins lui reconnaître un mérite, c'est que, lorsqu'un problème surgit, il s'en empare à bras le corps et trouve une solution. Effectivement, oui, je le reconnais, les solutions ne sont pas forcément celles auxquelles auraient pensé les premiers débiles venus. Il s'agit, pour ceux et celles qui nous gouvernent, de s'élever, de voir plus loin, d'apporter un regard neuf et de mettre en place des mesures un peu plus intelligentes que celles qui auraient pu apparaître comme logiques au premier abord. On ne soigne pas les symptômes. On soigne pas les malades non plus, il n'y a plus de place. Bon, on soigne autre chose. Premier exemple. Lorsqu'on se rend compte qu'il n'y a plus de place dans les hôpitaux, le ministère de la Santé s'en occupe et met en place une publicité pour expliquer aux gens que quand ils sont malades, ils ne doivent pas se rendre à l'hôpital. Lorsqu'on se rend compte que la planète, la France est polluée, et qui aurait pu prédire, hein, on prolonge l'autorisation du glyphosate et des néonicotinoïdes pour se donner le temps de réfléchir à tête reposée à ce qu'on pourrait utiliser à la place. Ah ben c'est pas toi qui aurais pensé, hein. trop occupé à bouffer du pain d'ortie et à chier dans des copeaux de bois. Et après ça critique, il n'y a pas de honte. Autre exemple, lorsqu'on se rend compte qu'une partie de la population se soulève parce qu'un flic abat un jeune qui aurait pu redémarrer avec sa voiture et qui sait peut-être provoquer un accident de la circulation, on réfléchit à une loi pour encadrer les réseaux sociaux et on met un maximum de jeunes en prison. Ah ben oui, fallait y penser, une fois en tôle, beaucoup moins de chances de se prendre une balle dans la tête en conduisant. Et dernièrement, ce type de mesures, le gouvernement français les applique cette fois avec une dimension internationale. Alors que des milliers de civils palestiniens périssent sous les bombardements israéliens, des membres du gouvernement décident d'organiser une grande manif contre l'antisémitisme. Et cette brillante idée est venue entre autres de Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Bon ok, je vous vois venir, bande de terroristes bouffeurs de dattes, lanceurs de cailloux en kéfier. Je sais déjà ce que vous allez me dire. Yael Braun-Pivet, c'est celle qui avait dit à l'Assemblée nationale qu'elle présidait « La France et l'Assemblée nationale apportent son soutien inconditionnel à l'État d'Israël ». Phrase qu'elle avait répétée quelques jours plus tard, alors qu'elle se rendait au siège du gouvernement israélien. Il y a deux jours, quand un journaliste de France Info lui faisait remarquer qu'apporter son soutien inconditionnel à un gouvernement qui contrevient aux lois internationales et qui bombarde des civils n'avait peut-être pas été approprié, elle s'est expliquée. Est-ce qu'elle s'est excusée pour avoir proclamé ça par deux fois? Eh bien non. Elle nous explique qu'on avait mal compris. Je la cite. « En aucun cas je n'ai apporté mon soutien ou le soutien de l'Assemblée nationale au gouvernement israélien. » Et elle affirme, je cite encore, « J'ai toujours été très droite dans la ligne qui a été la mienne. » Alors même si on voit qu'elle est très mal à l'aise lors de l'interview et qu'elle bute sur presque chaque mot, elle finit en nous montrant qu'elle peut aussi savoir faire preuve d'une grande et belle humanité en clarifiant sa position. Je plaide pour que la riposte israélienne soit la plus économe possible en vie humaine pour les civils. Rassurant de voir quel respect on a pour la vie humaine dans les hautes sphères du pouvoir en France. Pendant ce temps-là, au Parlement français, la vie continue et nos représentants politiques assurent leur mission avec toujours autant de sérieux. J'en veux pour preuve le sénateur Horizon Joël Guerriau, qui vient d'être entendu par la gendarmerie. Fait assez étonnant pour être précisé, cette fois, il ne s'agissait pas de la brigade financière. Non, il vient d'être accusé par la députée MoDem, Sandrine Josso, de tentative de viol. Les faits, Joël Guerriau invite Sandrine Josso, son amie depuis plus de 10 ans, à boire un verre chez lui. Il sert des coupes de champagne à la cuisine et verse de la drogue dans l'une d'elles. La députée se rend compte que le champagne a un goût bizarre et trouve le comportement du sénateur suspect. Il ne cesse d'allumer et d'éteindre la lumière. On lui aurait dit que les variations lumineuses augmentaient les effets de la drogue. Et il insiste pour que la députée boive plus vite. Celle-ci commence à se sentir mal, mais ça ne l'empêche pas de se rendre compte de l'embrouille. N'oublions pas que niveau rang de fumage, on a affaire à deux professionnels. Elle réussit donc à quitter les lieux et porte plainte dès le lendemain. Le sénateur est entendu par la gendarmerie et une perquisition est effectuée, ce qui permet de retrouver la drogue. Alors avant de continuer, et pour rappeler un peu à quel type de personne on a affaire, faut bien se dire que le Sénat, c'est plus ambiance section 3e âge du Rotary Club que arrière-salle d'un bar de banlieue. Quand on demande donc à Joël Guerriau d'où vient la drogue, il explique qu'il l'a obtenue par un autre sénateur. Il est temps maintenant de jeter un coup d'œil à sa carrière au Sénat et d'en profiter pour faire une petite dédicace à Jérôme Cahuzac, chargé de la lutte contre la fraude fiscale qui planquait son pognon en Suisse. On n'oublie pas non plus Benjamin Griveaux, âpre défenseur des valeurs familiales traditionnelles qui envoyait des vidéos de lui à sa maîtresse en train de s'amuser avec son petit oiseau. Et plus récemment, on en doit une à Dupond-Moretti, ministre de la Justice et délinquant. Revenons à notre Darmanin sans envergure et je vous retranscris un extrait de son discours au Sénat d'il y a 2 ans, en tant que chargé d'une mission spéciale dont vous allez vous rendre compte de la teneur. C'était le 4 novembre. Je cite. Si les produits stupéfiants sont dangereux pour la santé de ceux qui les consomment, leurs trafics sont aussi plus généralement néfastes pour l'ensemble de la société. Ces produits font en effet l'objet d'un commerce lucratif dont les fonds viennent alimenter d'autres activités criminelles, au premier rang desquelles le terrorisme. Et voilà, il ne manquait plus qu'il aurait été chargé d'une commission de lutte contre le viol et on aurait été complet. Maman, je peux aller visiter le Sénat ce week-end ? Oh non, mon petit, je préférerais que tu choisisses un endroit un peu plus safe, comme, je sais pas, une rave party ?
Une sacristie ?
Non. Le fin mot de l'histoire, Joël Guerriau a avoué en garde à vue avoir craqué et expliqué son comportement par la mort de son chat, Papicha. Allez, on passe maintenant à la classe au-dessus. L'Argentine vient de se doter d'un nouveau président, Javier Milei. Bon courage au peuple argentin. Celui qu'on appelle le Trump de la Pampa a déjà avoué qu'il allait saborder le ministère de la Santé. Heureusement qu'on verrait pas ça en France. Il a annoncé qu'il ferait pareil avec le ministère du droit des femmes. Ouf, heureusement qu'en France, on avait Marlène Schiappa. Pour monter dans son parti, les femmes doivent s'acquitter de services sexuels. Heureusement, en France, c'est pas Darmanin qui laisserait faire ça. Et, comme Javier Milei l'explique très sérieusement, ses conseillers politiques spéciaux sont ses 5 chiens. Heureusement qu'en France... Oui, ça va, peut-être qu'ils sont pas aussi bons que McKinsey, mais ils prennent sûrement moins de pognon.
On sait pas, peut-être qu'ils étaient payés en croquettes.
Ça coûte peut-être pas autant que les millions qu'on a balancés à McKinsey. Enfin, il se définit lui-même comme anarcho-capitaliste. Pourquoi pas mitrailleur pacifiste ou antifa néo-nazi ou bien même écolo-macroniste. Allez, les vrais anarchistes ne se présentent pas aux élections, ils et elles luttent aux côtés des opprimés par la solidarité et la libre association. Alors bien sûr, en plus de la solidarité totale avec le peuple palestinien, solidarité aussi avec le peuple argentin. El pueblo unido jamás será vencido.
Ah bah ouais. Ben, voilà, c'est comme ça que se finit ce flash Canu Info. On se retrouve la semaine prochaine.
T'as pas eu le temps de regarder pour faire un petit agenda, non ?
Est-ce que j'ai pas eu le temps de regarder pour faire un petit agenda ? Bah non, je t'écoutais. Non, j'ai pas eu le temps.
On peut dire que samedi, il y a un rassemblement.
Bah voilà,
pour la soutenir le peuple palestinien, pour soutenir Gaza. Du coup, c'est samedi, c'est à Bellecour, et je vais vous dire exactement l'heure. C'est de 17h à 19h, samedi 25 novembre, place Bellecour. Cessez le feu, halte au génocide.
Voilà, c'est tout. Si vous voulez un agenda, vous allez sur le site rebellion.info, à droite, il y a les prochains rendez-vous. Voilà. À la semaine prochaine.
Radio Canu. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Rebelle des radios.